RFI, le journal, 3h à Gaza, 2h à Paris.
Théo Renaudon.
9 enfants palestiniens tués à Gaza ce vendredi par une frappe de l'armée israélienne, tous dans la maison de leurs parents, un couple de médecins de Khan Younes. Partisan d'une ligne dure contre les gangs et le narcotrafic, le président équatorien vient de prêter serment pour la deuxième fois. Et puis fin de course sur le tapis rouge, le festival de cinéma de Cannes est terminé. C'est un réalisateur iranien qui remporte la Palme d'Or. Mais avant cela, Kiev ne dort qu'à moitié pour la deuxième nuit consécutive. Les autorités ukrainiennes avertissent d'un fort risque de missiles russes. Une dizaine de drones ont déjà visé la ville ces dernières heures. La nuit dernière, une attaque du même genre a fait 15 blessés. Émotion à Gaza et même bien au-delà après l'annonce de la mort de 9 enfants d'une même famille. Leur mère, pédiatre, était à l'hôpital quand sa maison a été bombardée vendredi à Khan Younes, dans le sud de l'enclave palestinienne. Son mari et le seul enfant qui lui reste sont actuellement entre la vie et la mort. Au moment du bombardement, des médecins étrangers étaient sur place et ont contribué à la médiatisation de cette histoire qui est loin d'être un cas isolé. À Ramallah, Amira Swilem.
Ils avaient entre 6 mois et 12 ans. Une fratrie de 9 enfants fauchés en une frappe. Le père, lui, est entre la vie et la mort. Ali El Najjar, l'oncle des enfants, ne s'en remet pas. Il témoigne au micro d'un journaliste palestinien.
Je ne comprends pas pourquoi la maison de mon frère a été bombardée ainsi. Je ne comprends pas pourquoi ses enfants ont été assassinés. Il est médecin, mais c'est peut-être pour cela qu'il a été visé, parce qu'il est médecin. Je ne sais toujours pas comment j'ai pu supporter la vision choquante de mes neveux brûlés. C'est au-delà des brûlures. Leur corps était grillé. On ne pouvait distinguer ni visage, ni dos, ni mains. Certains avaient les mains et les jambes déchiquetées.
Des corps pulvérisés, au point que la famille dit ne pas réussir à identifier précisément les corps des enfants. Une tragédie qui a suscité l'émotion de médecins du monde entier, comme celle du Norvégien Mads Gilbert, habitué des missions humanitaires à Gaza.
C'est la réalité à Gaza maintenant. L'éradication sans pitié de familles entières, l'éradication des travailleurs médicaux, la privation de nourriture et d'eau de plus de 2 millions de personnes. Ce sont des crimes monstrueux contre l'humanité, contre nous tous. Il faut arrêter de parler maintenant et mettre en place des sanctions, le boycott et l'isolement économique d'Israël.
Depuis le 7 octobre 2023, ce sont au moins 1400 familles palestiniennes qui ont été rayées complètement de l'état civil, selon les chiffres du ministère de la Santé de Gaza, supervisé par le Hamas. Amira Swilem, Ramallah, RFI.
Interrogée sur cette frappe, l'armée israélienne affirme que l'événement est en cours d'examen. Fin de citation. Nombreuses réactions à Kinshasa ce samedi après le discours de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila. Pour le député Peter Kazadi du parti présidentiel, Joseph Kabila est complice, je cite, des désordres actuels qu'il a bien planifiés pour revenir comme un rempart. L'ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pointe, lui, l'absence de condamnation du Rwanda et de l'AFCM-23 dans le discours de l'ex-président. Joseph Kabila, je le rappelle, a dénoncé une dictature en RDC ce vendredi lors d'un discours diffusé sur Internet, discours diffusé au lendemain de la levée de son immunité parlementaire. Il a envoyé l'armée dans les rues et les prisons pour faire face aux gangs durant son premier mandat. Le président équatorien Daniel Noboa vient de prêter serment ce samedi pour son deuxième mandat lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale. Il promet de sauver son pays des mafias, de narcotrafiquants. Il a remporté sa deuxième élection en avril face à une candidate de gauche, notamment grâce à sa ligne dure en matière de sécurité. Éric Sanson, son nouveau mandat débute donc sous de bons auspices.
Il y a un an, le président Noboa venait à peine de lancer un conflit interne armé contre des dizaines de groupes armés et mafias. Le pays était plongé dans les coupures d'électricité massives et l'opposition dominait l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le mouvement officialiste Action démocratique nationale domine le Congrès. Les coupures d'électricité ont été évitées. De nombreux électeurs, comme la musicienne Paulina Iniguez, attendent maintenant des résultats rapides, notamment dans la lutte contre la délinquance.
Je ne sais pas si on pourra éliminer complètement la violence, mais il faut diminuer le pouvoir des mafias qui s'infiltrent dans la justice, les entreprises et le monde politique.
Et les chiffres de cette année ne sont pas bons. De janvier à mars, 2361 homicides ont eu lieu selon le ministère de l'Intérieur, 65% de plus que lors du premier trimestre 2024. Des chiffres que le président Noboa doit assumer, selon le politologue Gustavo Hisch.
Aujourd'hui, le président Noboa n'a plus d'excuses pour ne pas gouverner. Le gouvernement ne pourra pas accuser les gouvernements antérieurs, le boycott de l'Assemblée nationale, l'insécurité ou la fragmentation politique, car il a les mains libres.
Le président Noboa l'a d'ailleurs bien compris, lui qui attend l'approbation rapide de son projet de loi contre l'économie criminelle. Éric Sanson, Quito, RFI.
En France, voilà un débat qui agite l'opinion publique dans ses profondeurs. Comment finir sa vie dans la dignité quand on souffre? Les députés ont achevé samedi dans les temps impartis l'examen de deux propositions de loi. L'une sur les soins pour limiter la douleur, les soins palliatifs, et l'autre sur l'aide au droit à mourir. Deux votes solennels se tiendront ce mardi. La ministre française de la Santé, Catherine Vautrin, s'est exprimée au Parlement à la fin des débats ce samedi. Elle remercie l'ensemble des parlementaires et redit l'importance, selon elle, d'avancer sur l'aide à mourir en France. Écoutez.
Ce texte d'abord termine ce qui est une première partie, une première lecture. Pour autant, je sais combien nous aurons encore à travailler pendant la navette au Sénat, puis revenir dans votre hémicycle. Je pense qu'il est important que nous acceptions l'idée que certaines souffrances ne trouvent pas de réponse. En aucun cas, il ne s'agit de limiter les soins palliatifs, il s'agit juste de se dire qu'il y a des moments où ils peuvent ne pas suffire parce qu'ils n'apaisent pas le patient qui est face à des souffrances réfractaires. Ça a été un débat extrêmement important. Merci à chacun des parlementaires d'un bout à l'autre de l'hémicycle. Et ce que je souhaite évidemment, c'est que nous puissions continuer ce travail. Je crois que ce débat nous honore collectivement.
En politique française, toujours, la coalition macroniste au pouvoir semble se fracturer à l'approche des prochaines élections présidentielles. L'ancien Premier ministre Gabriel Attal acte publiquement dans un journal ce samedi de profondes différences avec l'actuel ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Divergence sur les questions sociétales comme les droits des personnes homosexuelles ou la sanctuarisation du droit à l'avortement. La palme d'or du festival de Cannes est remportée par le réalisateur iranien Jafar Panahi pour son film Un simple accident, film tourné clandestinement en Iran. Le réalisateur, qui a connu les geôles de la République islamique, est donc récompensé pour ce conte moral, récit de désir de vengeance d'un ancien détenu iranien qui ira jusqu'au pardon. Voilà donc comment se clôture cette 78e édition du Festival international de cinéma. Le jury, présidé par Juliette Binoche, a décerné ses prix en fin de journée et confirmé la tonalité générale de cette édition. Sophie Torlotin.
Politique, le 78e Festival de Cannes l'aura été jusqu'au bout, jusqu'à la Palme d'Or décernée à l'Iranien Jafar Panahi. Le réalisateur de 64 ans, qui a connu la prison à deux reprises, a tourné Un simple accident dans la clandestinité. Simple dans sa forme, ce brûlot politique qui questionne le sens de la justice et la vengeance face à l'arbitraire avait bouleversé les festivaliers ici. Le Grand Prix, la Palme d'Argent, échoit au Norvégien Joachim Trier pour Sentimental Value, film sur la famille, les traumas que l'on transmet et le cinéma qui répare. La politique et le cinéma, il en est également question dans L'Agent secret, une ample fresque de Kleber Mendoza Filho, prix de la mise en scène et prix d'interprétation masculine pour Wagner Moura, touchant en universitaire menacé de mort pendant la dictature militaire au Brésil. C'est une jeune femme de 23 ans qui reçoit le prix d'interprétation féminine, Nadia Meliti, musulmane pratiquante qui se découvre homosexuelle dans La petite dernière d'Avzia Herzi. Et puis deux films se partagent ex aequo le prix du jury, Sirat d'Oliver Lax et Sound of Falling de Masha Chilinsky. Sophie Torlotin, Cannes, RFI.
Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Prochaine édition dans 50 minutes. En attendant, vous pourrez retrouver tous nos podcasts sur l'application RFI Pure Radio.